La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Bon.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Décibel. Vous pouvez retrouver cette émission, bien entendu, du lundi au vendredi de 18h30 à 19h. C'est Honorine ce soir à l'animation de cette émission et je ne suis pas seule puisque je suis avec Jean-François pour nous présenter ce Décibel confiné. Bonjour Jean-François.
Bonjour Honorine, bonjour à tous.
Au programme de cette émission, une chronique fraîchement née, puisque tu nous proposeras dès le début de cette émission une chronique qui s'intitule « Le vulgarisateur de l'espace ». Je vous proposerai également une nouveauté de TV Party qui va sortir un EP prochainement. Et on terminera cette émission avec un reportage de Cyrano de Bergerac, pièce de Rostand qu'on a pu voir il y a quelques temps au Funambule Montmartre à Paris avant la fermeture de tous les établissements culturels. On commence par toi donc Jean-François, est-ce que tu peux nous parler du vulgarisateur de l'espace ?
En 1969, un homme marchait pour la première fois sur la Lune. C'était il y a plus de 50 ans déjà. Alors dans cette chronique radiophonique, Le vulgarisateur de l'espace, je retrace la fabuleuse épopée de l'exploration spatiale et vous invite à voyager la tête dans les étoiles. Alors on parlera conquête spatiale, recherche scientifique autour de l'espace, les galaxies également. On abordera une variété de sujets à bord de cette chronique spatiale, le vulgarisateur de l'espace. Alors sans plus tarder, rejoignez la chronique radiophonique du cosmos.
Attention pour le décompte final.
3, 2, 1, 0.
Le vulgarisateur de l'espace.
Décollage.
L'appel du cosmos de Jules Verne à Sputnik 1.
Au commencement, il n'était qu'une poignée d'écrivains et de scientifiques géniaux. Jules Verne et Herbert George Wells l'imaginaient dans leurs livres. Constantin Tsiolkovsky en était persuadé. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Avec ces hommes, l'exploration de l'espace avait trouvé sa genèse. Vous connaissez probablement cette citation de Tsiolkovsky, un scientifique russe du début du XXe siècle, aujourd'hui considéré comme le père de la cosmonautique moderne. En 1903, il publie le premier traité de fuséologie, l'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction. Il y explique comment se libérer de l'attraction terrestre pour atteindre les portes de l'espace. Il imagine, entre autres, les fusées à étages comme peut l'être aujourd'hui Ariane 5, le lanceur européen, préfigure les stations spatiales et l'utilisation de combustibles liquides, oxygène, hydrogène, pour la partie propulsion. Quelques années plus tard, vers 1890, un ingénieur et physicien nommé Robert Goddard passe à la pratique. Il pense et conçoit les premières fusées à propulsion liquide. Il dépose des brevets, des analyses purement théoriques en 1919, publie aussi des articles, on le prend pour un fou. Il semble seulement lui manquer la connaissance enseignée tous les jours au lycée, critique le New York Times au sujet des théories du professeur Goddard. Sa première fusée s'élève néanmoins vers le ciel avec élégance et stabilité le 19 avril 1932. En Autriche, Hermann Oberth, éveillé par les romans de Jules Verne, rédige pour son doctorat une thèse intitulée « Des fusées dans l'espace interplanétaire ». En 1935, il réussit le lancement d'une fusée à combustible liquide et rejoint ensuite Peenemünde pour travailler sur les missiles balistiques de l'armée nazie. Il travaille aux côtés de jeunes ingénieurs allemands, Werner von Braun est le plus brillant d'entre eux. Le 3 octobre 1942, il réussit le tir de la première fusée militaire, baptisée V2, V pour vengeance. Elle franchit pour la première fois la barrière de l'espace, autour des 80 km d'altitude. À la chute d'Hitler, les armées alliées mettent la main sur les stocks de V2 ainsi que sur une précieuse documentation technique. L'objectif est clair, il faut rattraper le retard vis-à-vis de l'Allemagne dans le domaine du spatial. Les États-Unis exfiltrent von Braun pour le faire travailler à leur compte. Plus tard, c'est sur ses épaules que reposera la lourde mission d'envoyer des hommes sur la Lune dans le cadre du programme spatial Apollo. De leur côté, France et Grande-Bretagne récupèrent aussi des documents et pièces de V2. À l'Est, rappelé très affaibli après avoir passé 6 ans au goulag, le soviétique Sergueï Korolev fonde le programme spatial communiste. L'objectif est alors essentiellement militaire, créer des missiles balistiques de longue portée capables de transporter des têtes nucléaires d'un continent à l'autre et leur principale occupation. Depuis 1947, la guerre froide fait rage et avec elle, la course à l'espace. La dissuasion nucléaire est un bon prétexte, elle est d'ailleurs bien réelle, mais tous ces ingénieurs de par le monde n'oublient pas l'esprit de Jules Verne et des autres visionnaires. Les fusées à usage militaire d'aujourd'hui seront aussi capables d'emmener l'homme dans l'espace demain. Le 24 février 1949, une caméra est emportée à plus de 400 km au-dessus de la Floride par une fusée et donne le premier aperçu de la rotondité de la Terre. En cette belle journée de 1949, la joie du rêve réalisé est bien là, l'espoir de l'exploration du cosmos lointain dans un futur proche aussi. L'homme dans l'espace, la Lune, les stations spatiales, les objectifs ne manquent pas, mais les obstacles techniques à surmonter sont nombreux. Par exemple, un objet lancé en l'air retombe sur le sol, peu importe la force du bras qui le jette. La force de gravité terrestre le ramène au sol. Pour placer ne serait-ce qu'un satellite artificiel sans qu'il retombe, il faut une fusée puissante capable d'atteindre une vitesse au moins égale à 28 000 km/h. En comparaison, la voiture la plus rapide au monde roule à près de 400 km/h, pas plus. Cette vitesse, c'est la vitesse de satellisation, dite aussi première vitesse cosmique. Si la fusée porteuse augmente encore sa vitesse, son orbite s'ouvre et sort du puits gravitationnel terrestre. La vitesse minimale au-dessus de laquelle un projectile échappe définitivement à la gravité terrestre est la vitesse de libération, dite aussi seconde vitesse cosmique. Ce premier cap sera franchi en 1957 du côté soviétique par Sputnik 1. Dans les steppes du Kazakhstan près de Baïkonour, en cette nuit calme d'octobre, le bip-bip caractéristique de l'émetteur radio du petit satellite répond. L'ère de la conquête spatiale était bien là.
C'était le vulgarisateur de l'espace, une chronique de Jean-François Bourguin, réalisation Honorine Campagne.
Attention pour le décompte final.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Merci Jean-François pour cette chronique. On poursuit cette émission Décibel avec TV Party qui a sorti un EP, 5 titres, qui s'intitule Dark Heart. En janvier 2020, je vous propose d'écouter le titre éponyme de cet album, Dark Heart.
The
Dark Heart, titre éponyme du nouvel EP de TV Party. On poursuit cette émission Décibel, toujours en compagnie de Jean-François, avec une interview réalisée avec la troupe, la compagnie du théâtre des Pieds Nus. Cette compagnie avait réalisé un spectacle autour de Cyrano de Bergerac, de Rostand, qui était visible au Funambule Montmartre à Paris.
Salut Cyrano !
Vous ! Vous avez un nez ! Un nez... Très grand !
C'est tout ? Mais... Oh non ! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses s'en somme, en variant le ton, par exemple.
Descriptif,
c'est un roc,
c'est un
cap, dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
Cyrano de Bergerac de Rostand jusqu'au 3 mai 2020, donc ici au Funambule Montmartre à Paris. Vous êtes trois comédiennes donc mises en scène par vous qui interprètent des rôles à l'époque exclusivement tenus par des hommes, donc le tout éclairé par la bougie comme d'antan. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette mise en scène et puis finalement de ce choix de mettre en avant, on va dire, des rôles plus ou moins masculins ou féminins interprétés 100% par des femmes?
Ça dépend de deux choses. D'une part, c'est la conjoncture qui a voulu ça, puisque au départ, le spectacle devait se jouer à deux hommes et deux femmes. Et il se trouve qu'un des deux hommes a quitté le projet avant même que ça ne commence. Donc, on n'était plus que trois. Et donc, voilà, j'ai décidé que ce serait trois femmes. Il nous fallait une petite plus-value aussi sur ce spectacle qui a été revu. Donc, on voulait aussi qu'il y ait un peu une petite touche un peu originale. Et c'est pour ça qu'on est parti sur trois femmes. Et voilà. Donc, à l'époque, sinon, tout n'était pas joué par des hommes, puisque au moment de la création, les rôles des femmes étaient joués par des femmes. Mais c'est vrai que c'est pas volontairement voulu, mais c'est un petit pied de nez aussi à toute cette époque où les hommes avaient joué tout.
Un autre élément important de mise en scène, l'utilisation du masque. Qu'est-ce que ça apporte? Et je dirais même, lorsqu'on est une femme et qu'on joue le rôle d'un homme, quel est l'effort à mettre pour pouvoir jouer ce rôle? Est-ce qu'il faut peut-être accentuer également le jeu, tout simplement?
Les masques, tout simplement, ça. Bon, d'une part, c'est une tradition qui nous est chère, puisque toute la tradition du masque oriental également, ça fait pas. C'est indépendant du travail de la compagnie. Et puis, d'autre part, quand on n'est que trois, avoir des masques, ça permet de bien différencier les rôles parfois, et ça facilite aussi la compréhension pour le public.
Alors justement, sur scène, on peut y voir du masque, comme on vient de le dire, mais également de la danse, une complicité forte avec le public, beaucoup d'humour, un peu d'improvisation. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette volonté de mettre beaucoup de choses aussi dans cette pièce de théâtre ?
Mais en tout cas, moi, je me place, quand je mets en scène quelque chose, je me place comme si j'étais public. Et comme j'ai une tendance à m'ennuyer très vite, je fais en sorte de ne pas m'ennuyer. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de choses. Enfin, et c'est une manière d'éveiller toujours l'attention du public, une manière de faire en sorte qu'il y ait toujours une petite surprise à chaque détour.
Déplorable marot, Mais à la fin, il nous ennuie, il fanfaronne.
Personne ne va donc lui répondre.
Personne.
Peut-être juste une question pour vous. Comment vous vous êtes approprié finalement tous ces rôles durant cette 1h40?
Du coup, j'en profite aussi pour répondre à la question sur comment endosser le rôle de Cyrano. Alors, heureusement, on était appuyé par un metteur en scène qui nous a beaucoup fait travailler pour qu'il y ait d'une part une unité entre nous trois, qui nous a fait travailler sur le côté masculin, puisque étant trois femmes, il fallait qu'on se masculinise, entre guillemets. Donc, pour ça, heureusement qu'on avait un metteur en scène homme. Et donc, on a dû beaucoup travailler sur le corps. C'est une gymnastique et ça, c'est assez exigeant. Mais en fait, pour nous, en tant que comédiens, c'est du pain béni parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à se mettre sous la dent parce que du coup, on est vraiment nourris dans notre travail. On a tellement de choses variées que pour nous, c'est un plaisir en fait et c'est un jeu. Et alors, ça demande une organisation très stricte en coulisses pour pouvoir switcher un costume très rapidement. Donc, des petites techniques sur les mises entre nous. On se file des tuyaux. Tiens, si tu peux me mettre ça là quand tu sors, etc. etc. Et une fois que ça s'est rodé, après, c'est une chorégraphie, en fait. Tout est une chorégraphie jusqu'à ce qui se passe, en fait, dans les coulisses, etc. Tout est très millimétré.
Avec la musique aussi qui est très, très présente aussi.
Hein. Oui, absolument. Et ça, dans le travail de la compagnie et de Bastien. Tiens, Ossard, la musique est un élément extrêmement important. Et c'est vrai que dans le travail de la compagnie, dissocier, c'est pas possible pour nous. Le théâtre, c'est un ensemble où il y a forcément du corps, du chant, de la danse, de la musique. Voilà.
Cyrano de Bergerac au Funambule de Montmartre, c'est une pièce qui oscille entre le côté très classique de la pièce, du texte, et puis également la modernité avec l'utilisation des musiques. On a aussi quelques influences un petit peu asiatiques, africaines, d'après ce que j'ai relevé. Comment est-ce que, lorsqu'on est metteur en scène ou acteur également, comment est-ce que l'on arrive à s'approprier ça, à se dire, finalement, on va prendre ce texte très classique et on va dérouter le spectateur en le jouant de manière très légère?
Moi, j'encourage souvent les gens à faire ce qu'ils aiment. J'essaye de faire ce qui me ressemble. À partir de ce moment-là, si c'est judicieusement fait, je pense que ça peut marcher. Et je crois même que c'est valable pour tout et pour tous. À partir du moment où on fait ce qu'on aime et on fait ce qui nous ressemble, il y a en général de bonnes chances pour que ça marche. C'est quand on veut faire quelque chose qui ressemble à un autre qu'on... Et je ne sais pas faire ce que les autres font. Je n'ai pas envie. Donc, j'essaye de faire ce qui me ressemble et ce que j'aime.
Attendez, je vais lui lancer un de ces traits. Vous avez un nez.
Un nez.
Très grand.
Très. C'est tout?
Mais...
Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses s'en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'embinasse.
Amical.
N'hésite pas
à tremper
dans votre tasse pour boire.
Faites-vous
fabriquer
un
nappe. Décritif.
C'est un roc.
C'est un cap.
Dis-je,
c'est un cap. C'est une péninsule.
Oh,
curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux.
Aimez-vous à ce point les oiseaux? Que paternellement vous vous préoccupez de tendre ce perchoir à leur petite patte?
Truculent! Ah, monsieur, lorsque vous pécunez, la vapeur du tabac vous fontaine du nez, faut qu'un voisin nous crie au feu de cheminée! Gardez-vous, votre tête entraînée par cette voix de tomber en avant sur le sol. Tendre!
Faites-lui faire un petit. Parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fasse.
L'animal seul, monsieur, qu'un riche enfant en appelle.
Et vous tombez les phoques.
Donc, Camille, si tu t'avoir sous le front, dans le chef, sur tant douce. Cavalier.
Quoi, ce croc est à la mode. Pour peindre son chapeau, c'est vraiment très commode.
Emphatique.
Au cabane, pète. Magistral, enrhumé tout entier, excepté la Mistral. Dramatique.
C'est la mer rouge quand il saigne.
Admiratif.
Pour un parfumeur qu'elle enseigne. Lyrique.
Et sur le coup que vous abritons, pom pom.
Naïf.
Attendez, c'est bien né.
Nanane, c'est que la fée géante.
Ou Bucket Melona.
Militaire.
Pointé contre cavalerie.
Pratique.
Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot.
Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot.
Le voilà donc ce nez qui détruit de 100 mètres.
A détruit l'harmonie.
Il en rougit.
Le traître.
Voilà
ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous étiez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en dites jamais un atome. Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot.
On a parlé très vite aussi de votre compagnie qui est basée à Montreuil, qui s'appelle donc la compagnie des pieds nus. Donc on peut y voir d'autres spectacles tout aussi... engagé, j'ai presque envie de dire, mais en tout cas exigeant, avec des textes aussi très fournis. On peut noter Les Misérables de Victor Hugo, on peut noter aussi Hamlet de Shakespeare ou encore Don Quichotte. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de ces spectacles et puis aussi de ce choix des textes pas simples forcément, mais aussi j'imagine comme là un peu, sans vulgariser ce mot, mais un peu popularisé finalement.
Tant mieux, mais c'est vrai que les textes, plus ils sont grands, plus il y a de matière. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on aime aller dans ces univers-là. Et j'ai l'impression qu'ils représentent des matières infinies dans lesquelles on peut piocher infini, sans cesse. Et ce que je ne retrouve pas tout le temps, partout, alors c'est certain, ce n'est pas tous non plus. Ben là aussi, je vais vers ce que j'aime. J'aime bien aussi que ça ne soit pas que du théâtre, voilà, comme Quichotte ou Les Misérables. En fait, tout est un peu matière à théâtre à partir du moment où c'est matière à images, j'ai envie de dire. Et tant qu'il y a des images et quelque chose à raconter, alors pour moi, ça fait office de théâtre. Et donc à partir de là, après, ça demande peut-être parfois un peu de travail, parce que adapter Les Misérables ou Quichotte, c'est pas, ça demande un peu de travail, mais mais c'est un travail quand même relativement agréable à faire. Ben, le travail, il repose sur une chose essentielle, qui est que les gens qui viennent assister à un spectacle de la compagnie, l'intention de départ, c'est vraiment de les inviter plus à une soirée d'ailleurs qu'à un spectacle. Alors, dans un monde rêvé, j'aimerais moi que le quatrième mur se brise totalement et qu'on puisse tous se retrouver et casser complètement l'espace. Alors ça, c'est parfois possible, mais réinventer ce lieu du théâtre où les acteurs et le public ne font qu'un, où on n'est pas séparé ni par la lumière, ni... Et donc, voilà pourquoi aussi on utilise parfois toute la salle. C'est pas non plus, parce que parfois, moi, je pourrais avoir tendance à trouver ça un peu vulgaire, le côté, on fait vraiment participer le public, on les fait venir sur scène et tout ça. Moi, je suis pas partisan de ça, mais en revanche que le public devienne acteur dans sa manière de regarder et dans sa manière même d'être accueilli par nous jusqu'à la fin, je trouve ça très important de pour pas que non plus le public soit là juste en spectateur, presque en retrait, mais vraiment comme un spectateur-acteur, et que nous soyons aussi des acteurs accueillants, on va dire. Et donc le travail après se fait au vu de ces critères-là. Donc parfois, il se peut qu'il y ait tous les acteurs dans la salle, parfois pas du tout. Parfois, on joue où les gens sont tout autour et nous, on joue au milieu. Ça dépend aussi un peu des envies, de ce que... Pas forcément de ce que le texte induit, parce que la mise en scène, pour le coup, dépend pas toujours du texte, elle dépend surtout de ce qu'on a envie de vivre avec le public.
Sur scène, vous êtes trois pour incarner une multitude de personnages. Alors, on l'a vu sur scène, une énergie folle. Et puis également, on a parfois l'impression que c'est un peu toute une entreprise de logistique, de savoir au niveau des costumes qui porte quoi. Comment est-ce que ça se passe déjà sur scène pour incarner cette multitude de personnages, de passer d'un personnage avec son caractère bien à lui à un autre, et puis également dans les coulisses?
Je vais me joindre un peu à la réponse qu'a formulée Yana tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a vraiment une chorégraphie qui s'exerce dans les coulisses, une chorégraphie qui s'exerce sur scène. Et du coup, pour ma part, et c'est comme ça, je pense qu'on les a travaillés, je vois les passages d'un personnage à un autre comme un pas, en fait, avec du coup sa respiration, qui est en fait la voix du personnage, son corps. Et puis, s'il est dans une certaine émotion, quand on passe à un autre, bam, c'en est une autre, quoi. Et c'est vrai que comme... comme ça a été effectivement mis en scène de cette manière chorégraphiée, ça nous, moi personnellement, ça me permet justement de voir ça comme des pas et donc de passer de l'un à l'autre facilement sans me poser la question de est-ce que je suis encore dans mon émotion d'avant ou pas. C'est impossible puisque c'est quelqu'un d'autre. Le masque aussi aide à ça. On a un masque qui implique un certain corps, une certaine voix, ou pas de masque, et du coup, le corps qui va avec ce neutre, quoi. Voilà, donc ça, ça aide, le fait que ça soit un peu catégorisé comme ça, et puis qu'on nous ait appris à glisser ouais, cette chorégraphie commune, quoi. Ça, ça aide à passer de l'un à l'autre.
Et puis, j'ajouterais que c'est hyper important qu'on soit toutes les trois très à l'écoute l'une de l'autre, et du coup... On se sent en fait vraiment sur scène, donc comme elle dit, quand il y en a une qui prend le pas de l'autre, la respiration de l'autre, on observe dans l'œil de l'autre tout ce qui se passe, on arrive à sentir à peu près ce que l'autre est en train de vivre, si à un moment elle a un souci, une galère ou quoi que ce soit, on le sent et on réagit très vite, pour vraiment ne former qu'un, enfin qu'une, il y a une cohésion qui s'est vraiment créée entre nous trois.
Dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bouées...
Coquin, ne t'ai-je pas interdit pour un mois?
Hein? Quoi, qu'est-ce? C'est lui, Cyrano!
Quel écho cette pièce a-t-elle aujourd'hui? On peut peut-être faire le lien avec le cinéma et puis aussi à quelques jours de la Journée internationale des femmes. Peut-être quelques mots sur la place des femmes dans le théâtre ou plus globalement dans l'art.
Alors c'est un fait qu'il y a dans le monde du théâtre plus de femmes que d'hommes. Et malheureusement, sur les papiers, sur les textes, plus d'hommes que de femmes, enfin plus de rôles de masculin en fait que féminin. Du coup, il faut régler un petit peu ce problème. Et c'est là où nous, on se dit, c'est pas un problème en fait. On fait ce qu'on a envie de faire. Je veux dire, après tout, Cyrano, ça peut être n'importe qui, ça peut être une femme. Les valeurs que porte Cyrano, moi, je les porte aussi. Et en fait, il n'y a pas de raison. Et puis, je pense que Cyrano était un fervent défenseur des femmes. Donc, il n'y a pas de raison. Je pense que ça lui aurait plu. Il n'y avait pas une volonté derrière militante ou politique. En fait, juste, c'est de se dire c'est pourquoi pas, en fait. Ça peut surprendre, mais à l'inverse, on se dit souvent, mais si ça avait été trois hommes, est-ce que la question se serait posée, en fait, de, tiens, ce sont trois hommes qui jouent Cyrano. Je n'ai pas totalement la réponse, mais je me la pose. Alors que dès que c'est trois femmes, d'un coup, c'est beaucoup plus intriguant. Et en fait, pour nous, peut-être c'est une manière de je sais pas, de militer, mais d'assumer qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal pour nous. Je pense que c'est une manière de même pas poser le débat, parce qu'en fait, pour nous, c'est la norme.
Ici, au Funambule Montmartre, jusqu'au 3 mai, pour Cyrano de Bergerac. Peut-être d'autres projets en cours. Peut-être Avignon aussi.
Alors oui, il y a Avignon. Et puis, avec Cyrano. Et puis après, il y aura Hamlet. Donc, ce qui sera la prochaine création. Et ce sera 5 femmes cette fois. Non mais c'est vrai.
C'est vrai. Donc un site internet peut-être pour vous retrouver?
Absolument, www.théâtrelespiedsnus.com.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bon, Fleury rentre en scène.
Oui, c'est lui qui commence.
Cyrano n'est pas là, j'ai perdu mon pari.
Tant mieux.
Et sur ce reportage de Cyrano de Bergerac par Rostand, interprété par la compagnie Théâtre des Pieds Nus, que se termine cette émission Décibel de ce soir. Merci Jean-François.
Merci Honorine, bonsoir à tous.
Salut.